I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Mathilde.
Bonjour. Salut.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a une façon de fonctionner un petit peu particulière.
Comment ça se passe pour vous?
Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué.
Pire que compliqué.
Je me pose un peu des questions sur la façon d'éduquer ma fille.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Pour moi, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que je retomberais plus enceinte. Forcément, au fil des mois, voyant qu'il se passait rien, j'étais complètement désemparée, quoi.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Marion ?
Tout d'abord, c'était important pour moi de mettre par oral tout ce qui se jouait pour moi lors de cette nouvelle grossesse, d'avoir une trace que je pourrais réécouter plus tard, que je pourrais peut-être transmettre aussi à mon enfant quand il sera en âge d'entendre cette histoire, et de partager ça aussi à mes proches, et puis plus globalement à des personnes qui vivent la même situation, puisque moi, ça m'a aussi beaucoup aidée d'écouter des témoignages sur ce sujet-là.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ?
Ma première grossesse a débuté en octobre 2021 et s'est terminée par une IMG à 4 mois et demi de grossesse. Bon, forcément, ça a été l'événement le plus douloureux de notre vie avec mon conjoint. Il s'est passé ensuite un an avant que je retombe enceinte pour... la seconde fois. Et c'est une grossesse qui s'est arrêtée au bout de 10 semaines aménorrhées, à peu près. Donc, un nouveau coup dur, nouvelle épreuve, une nouvelle expérience aussi dont on ne connaissait pas grand-chose avant de le vivre. Et là, je suis retombée enceinte quelques mois après, enfin très rapidement, à l'issue de cette grossesse arrêtée. Et actuellement, je suis enceinte de 4 mois et demi aussi.
Ok. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, Marion, entre la perte de votre bébé à 4 mois et demi de grossesse et vous dites s'il s'est passé une année. Déjà, comment voilà, les choses se sont décidées pour vous de vous relancer dans ce projet? Voilà, comment le désir s'est manifesté? Est-ce qu'il a toujours été présent? Est-ce que, voilà, comment les choses se sont passées pour vous?
Après l'IMG, enfin, au moment en fait, où on a décidé de l'IMG, j'étais déjà imprégnée de pas mal de lectures, écoutes sur ce sujet-là. Et ce que j'entendais beaucoup, c'est que généralement, les mamans, elles avaient vraiment ce besoin viscéral de retomber enceinte très rapidement. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Enfin, c'est complètement ce qui s'est passé pour moi. Je pense que pour mon conjoint, c'était différent. Il était un peu plus sur la réserve. Déjà, lui, il y avait une étape qui était importante pour lui, c'était que le terme de la première grossesse soit passé. Ça représentait à peu près 4 mois et demi, donc voilà, c'était pas très long en soi d'attendre cette période-là, pour moi non plus. Mais effectivement, une fois le terme passé, là, c'est devenu très vite obsessionnel, en fait, pour moi, de retomber enceinte. Et donc, voilà, je suis tombée dans un espèce de contrôle fric de tout faire pour retomber enceinte le plus rapidement possible. L'aspect positif, je dirais, c'est que... je me suis aussi beaucoup renseignée sur tout ce qui pouvait impacter de manière positive sur ma fertilité, la symptothermie, la micronutrition, tous ces sujets qui étaient inconnus pour moi et que je trouve finalement très intéressants et qui me servent aujourd'hui. Mais du coup, moi, c'était vraiment l'objectif précis, c'était de retomber enceinte en mettant tout ça en place. Et ça a mis un petit peu de temps. Donc, forcément, plus on avance et plus moi, je le vivais très mal. ça m'a pas mal isolée aussi de voilà, soit certaines personnes, certaines situations, parce que c'était trop dur à gérer pour moi, en lien avec des grossesses, des enfants, tout ça.
Donc de voir vos amis enceintes, d'apprendre d'autres grossesses.
Exactement, voilà.
Comment du coup vous avez géré ça ?
Bah justement, en m'isolant. Donc voilà, j'avais aucun scrupule à refuser d'aller à des déjeuners, des choses comme ça, où je savais qu'il y allait avoir soit des femmes enceintes, soit des enfants, ou soit des nourrissons en l'occurrence. J'avais aucun scrupule à le faire et je pense que c'était dur pour mon conjoint aussi parce que je voulais pas l'empêcher de lui justement participer à, enfin voilà, continuer sa vie. Mais moi je me sentais pas capable en fait de le faire et puis et je sais que oui, ça nous a à un moment en tout cas éloigné aussi de certains amis. Donc ouais, j'ai eu un peu ce sentiment d'être isolée, mais je l'ai eu plus eu après l'IMG qu'au moment de l'IMG où voilà, on est quand même beaucoup entouré, les gens sont beaucoup là, et puis forcément au fur et à mesure, tout le monde repart à sa vie, ce qui est normal. Et c'est plus là que j'ai ressenti ce moment de solitude. Et puis voilà, j'ai eu un peu des tentatives de rencontrer des médecins pour essayer de voir si j'avais pas des problèmes de fertilité, moi ou mon conjoint. C'était compliqué aussi parce que ce qu'on me disait, c'est mademoiselle, vous êtes déjà tombée enceinte une première fois. Là, ça fait même pas un an que vous réessayez. Donc, en gros, soyez patiente. Donc, voilà, j'avais l'impression que personne me soutenait, quoi.
Vous aviez besoin d'être rassurée d'un point de vue médical ou par rapport à la capacité de votre corps d'accueillir une nouvelle grossesse ?
Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que je ne retomberais plus enceinte, alors que voilà, j'ai toujours eu des cycles classiques, pas de signe en soi qui pourrait évoquer que voilà, il y a un problème au niveau de la fertilité, mais je me suis mis ça en tête. Et puis forcément, au fil des mois, voyant qu'il ne se passait rien, et voyant que moi, je mettais tout en œuvre pour que ça arrive, j'étais complètement désemparée, quoi.
Quand vous nous parlez de cet isolement, le fait de refuser des propositions sociales, de mettre à distance les femmes enceintes, les bébés, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était quelque chose qui était protecteur pour vous ? Ou qu'il y avait aussi finalement à la fois du bénéfice, de la protection et à la fois quelque chose qui a pu vous mettre un peu en difficulté ?
Oui, je pense que c'était vraiment... Enfin, moi, je me protégeais et en même temps, ça me faisait du mal aussi parce que ça voulait dire se priver de moments sympas, festifs, avec des amis. Donc, c'était pas forcément agréable parce que moi, c'était des moments où je restais chez moi toute seule et j'étais plutôt à broyer du noir ou à pleurer. Donc, je vivais pas très bien, honnêtement. Mais à ce moment-là, j'étais incapable de faire autrement.
Vous venez de nous raconter, vous avez fait énormément de choses voilà, pour qu'une deuxième grossesse arrive rapidement. Qu'est-ce que vous avez fait par exemple ?
Je me suis vraiment renseignée sur ces sujets de symptothermie, donc vraiment de connaissance en fait de mon cycle, qui sont des sujets où, enfin, honnêtement, avant d'avoir un projet de grossesse qui ne m'intéressait pas forcément, enfin, sur lequel je ne m'étais jamais renseignée. Et pour le coup, même moi personnellement, j'ai trouvé ça... Enfin, hyper passionnant, donc je le faisais avec plaisir aussi et je me disais que passer 30 ans, c'était dommage d'avoir attendu aussi longtemps pour avoir toute cette connaissance. Donc il y a eu ça, donc là c'était surtout de la prise d'informations et dans mon quotidien au niveau de l'alimentation, etc. Et puis il y a autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de rejoindre ça s'appelle pas forcément un groupe de parole, mais en tout cas c'était un accompagnement en groupe avec d'autres mamans qui avaient vécu un deuil périnatal pour des raisons... on était un petit groupe de 6 personnes et on avait toutes des histoires très différentes. Mais on avait en commun la perte d'un bébé. Et ça m'a beaucoup aidée aussi sur plusieurs mois d'avoir ce rendez-vous toutes les semaines à heure fixe avec notre thérapeute, Diana. C'est aussi, je pense que sur les derniers mois, ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et puis, j'ai rejoint ce groupe au moment de ma deuxième grossesse, donc celle qui s'est arrêtée au bout de 2 mois. Donc voilà, ça a été aussi un soutien à ce moment-là.
Et quand une nouvelle grossesse est arrivée, comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous ?
Je dirais que à partir de la deuxième grossesse, déjà, on était beaucoup plus sur nos réserves, en fait, avec mon conjoint. Enfin, disons que quand on fait le test de grossesse, c'est pas non plus un éclat de joie. C'est justement beaucoup plus modéré. Attendons de voir ce qui se passe. Et puis moi, pour cette deuxième grossesse, en fait, très rapidement, j'ai compris que ça n'allait pas. Parce que voilà, j'ai fait des prises de sang, parce qu'on a fait des échographies un peu précoces où l'embryon avait pas la bonne taille. En fait, moi, j'ai compris tout de suite. Et du coup, c'était assez dur aussi parce que pendant 2 mois, j'ai vécu un peu dans l'attente que la fausse couche arrive. Sauf qu'on ne sait jamais quand ça va se produire, ou si ça va se produire. Et je me suis pas du tout projetée sur cette grossesse. Et c'était compliqué pour mon conjoint parce que forcément, lui, il avait envie d'y croire. Et en même temps, j'essayais de lui démontrer par A plus B que y avait tous ces facteurs qui faisaient que c'était pas bien parti. Donc, c'était pas très facile à vivre non plus. Et c'était pas 2 mois très agréables.
Et après, comment s'est passée pour vous l'attente entre cette deuxième grossesse et la troisième grossesse qui est là aujourd'hui?
Oui, justement, il n'y a pas eu d'attente entre ces deux grossesses. Enfin, il y a eu un cycle, mais du coup, c'est très rapide.
Vous attendiez à ça?
Non, pas forcément, parce que comme il s'était passé 1 an entre les deux premières grossesses, moi, j'étais un peu effondrée aussi de me dire « Ok, là, c'est reparti pour 1 an, il ne va rien se passer. » Et ça va être encore très dur. Et oui, non, je pense que je ne m'y attendais pas du tout. Et puis après, rebelote, on refait un test de grossesse qu'on avait fait quelques semaines avant. Donc toujours pas trop d'engouement, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe où on se dit, en fait là, ça y est, c'est bon, ça va marcher, tout va bien se passer. Donc plus de positif dès le début, accompagné évidemment de plein de peurs, de craintes, mais on n'était pas du tout dans le même état d'esprit.
Quelles étaient vos peurs, vos craintes ?
Il y en avait deux. Du coup, il y avait déjà... récemment, on avait connu l'épreuve de la grossesse arrêtée. Donc, déjà, les premières semaines, les craintes, c'était surtout lié à ça. J'ai réussi à me contenir. J'ai fait une seule prise de sang. Parce que celle d'avant, j'en avais fait au moins 4 pour voir que le taux évoluait pas. Et là, j'en ai fait qu'une seule. Et je me suis dit, de toute façon, je contrôle pas ce qui se passe. Donc, juste le fait d'avoir attendu cette fausse couche la fois d'avant, ça m'a pas aidée et j'ai pas vécu 2 mois très sympathiques. Donc, j'ai pas envie de revivre ça. Donc, j'ai fait une prise de sang. Donc, au départ, c'était surtout des peurs liées à ce que la grossesse s'arrête. Et puis après, la peur qu'on revive le même épisode que pour notre fils, qui était porteur de trisomie. Donc, je dirais que jusqu'à la T1, et même après la T1, donc les prises de sang, le DPNI, etc. Voilà, on était un peu... On a retenu notre souffle, sur les 12 premières semaines, quoi.
Et une fois que la T1 est arrivée, comment les choses se sont passées pour vous ?
On y allait quand même assez serein, bizarrement. Enfin, il y avait toujours cette peur qui flottait. On arrivait à se convaincre que cette fois-ci, tout allait bien se passer. Et on est tombé en plus sur une praticienne qui nous a beaucoup rassurés, à qui on a raconté notre histoire. Donc qui était vraiment très rassurante, qui nous détaillait tout ce qu'elle voyait à l'écho et qui faisait en sorte, je pense, de nous rassurer par rapport à ça. Bon, ça m'a pas empêché, sortie de l'échographie, de comparer les comptes rendus de cette échographie-là avec l'échographie de notre petit garçon, pour la première grossesse. Je pense que c'est la première chose que j'ai faite en arrivant chez moi, c'est juste comparer toutes les mesures sur les deux comptes rendus.
Est-ce que vous savez ce que vous cherchiez à ce moment-là ?
Je cherchais à me rassurer malgré tout ce que la praticienne avait pu nous dire. Voilà, j'étais assez obnubilée par la clarté nucale parce que nous, c'était cette mesure-là aussi qui était un peu hors norme lors de la première écho, même si on nous avait rien signalé à ce moment-là. Donc je pense que c'est là-dessus que j'essayais de comparer et de me dire « Ok, bon, là, la clarté nucale, elle est fine, donc a priori, tout va bien se passer. » Mais
c'est un peu comme si finalement ce que pouvaient vous dire les médecins ou les résultats des examens n'étaient pas suffisants pour vous rassurer ?
Sur le coup, oui. Mais en fait, une fois que je me retrouve chez moi toute seule, j'ai plus le médecin à côté de moi pour me rassurer. Donc je cherche à me rassurer par moi-même en regardant sur Internet la clarté nucale, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc je suis rassurée sur le coup, mais assez vite, j'ai l'impression que l'angoisse ressort, quoi.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes à combien de temps de votre grossesse ?
4 mois et demi. Et il y a quelques jours, je suis arrivée au terme de ma première grossesse, au moment où ma première grossesse s'est arrêtée. Donc c'est assez symbolique de le faire aussi à cette période-là.
Comment s'est passé justement ce passage pour vous ?
Ça va, honnêtement, j'ai rien fait de particulier, mais je sais pas pourquoi c'est une date que j'avais en tête depuis longtemps. En fait, j'ai l'impression que pour cette grossesse, on fonctionne vraiment par petite étape. Donc voilà, il y avait les codes datation, la T1, le résultat du DPNI. C'est, à chaque fois, c'est des petites étapes qu'on coche. Et là, je me suis juste dit que, en gros, tout ce que j'allais vivre à partir de maintenant, c'est du coup des événements ou des étapes que j'ai pas connues, en fait. Donc, en tout cas, j'aurais pas d'expérience précédente. J'aurais pas de point de comparaison non plus. Donc, je me dis que peut-être que ça sera moins angoissant aussi pour moi. Je vis quand même relativement bien cette nouvelle grossesse.
Quelle place votre fils prend aujourd'hui dans votre grossesse ?
C'est parfois compliqué de trouver la juste place, je dirais. Ne pas donner trop de place, entre guillemets, faire de la place à ce bébé-là et ne pas l'oublier complètement. Donc, j'ai l'impression parfois de jongler et de ne pas savoir toujours comment gérer ça. Un des moyens de le faire, pour moi, c'est d'écrire. J'ai un carnet de grossesse que j'avais aussi à ma première grossesse. Donc là, j'en ai réécrit un, où je parle du coup à mon bébé. Je lui dis « tu ». Enfin voilà, je lui raconte un peu tout ce qui se passe. Et du coup, assez régulièrement, je lui parle de son grand frère. C'est le moyen aussi que j'ai trouvé de lui donner sa place. Et voilà.
Est-ce que vous connaissez le sexe de votre bébé ?
Pas encore.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de savoir ?
Alors, c'était un grand débat entre mon conjoint et moi. J'ai l'impression, comme beaucoup de papas, et je pense que ça aide aussi à se projeter dans la grossesse, pour lui, c'est hyper important de le savoir. Et pour moi, au départ, j'avais pas forcément envie. En fait, je me disais que de toute manière, peu importe le sexe, ça changerait rien. Et que le principal, c'est qu'on ait un bébé en bonne santé, qu'on puisse accueillir au bout de 9 mois. Donc, je voyais pas l'intérêt de demander le sexe. Et c'est vrai que plus ça va, plus on approche de l'écoté 2 et plus je suis en train de changer d'avis. La seule chose qu'on sait pas encore, c'est est-ce qu'on va le garder pour nous ou est-ce que, on va le partager aussi avec nos proches.
Est-ce que ça peut susciter des inquiétudes, qu'il s'agisse d'un petit garçon ou d'une petite fille ?
C'est une bonne question et je ne sais pas justement quelle sera ma réaction si on me dit que c'est un petit garçon. J'ai peur aussi de faire un espèce de transfert. Enfin, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me dis que peut-être que c'est peut-être que c'est bien pour nous finalement de connaître le sexe et de se préparer aussi d'avoir 4 mois pour intégrer cette information et voilà.
Marion, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de recommander aux futurs parents qui nous écoutent ? Des choses que vous avez pu lire, voir, écouter, entendre, qui ont pu vous aider ?
Il y a un podcast qui traite vraiment le sujet du deuil périnatal de manière très globale, très ouverte, qui s'appelle Au revoir podcast, l'accompagnement en groupe auquel j'ai participé. Et alors après, peut-être que toutes les femmes ne sont pas concernées par le sujet, mais sur le sujet de la fertilité, moi, il y a aussi un compte et c'est aussi un site internet qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Émancipée et qui, justement, décrypte un peu tout ce qui se joue dans le cycle, beaucoup sur le cycle féminin. Et elle a aussi écrit un livre avec un gynécologue passionnant.
Merci beaucoup Marion pour vos témoignages. Voilà, comme je le disais au début, on va rejoindre maintenant le docteur Bérangère Bokier-Makota pour discuter avec elle. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre périnatale, vous travaillez à l'unité de pédopsychiatrie périnatale de Montreuil qui est rattachée à l'hôpital de Villévrard. Bérangère, quelles sont vos réactions à l'écoute du témoignage de Marion ?
J'ai qu'une réaction, c'est que je pense très important que des femmes qui ont vécu cette expérience puissent communiquer sur leur vécu. Je pense que c'est aussi important de mesurer le chemin, j'imagine, que Marion a fait pour pouvoir en parler comme elle le fait aujourd'hui. C'est un sujet qui, malheureusement, est encore extrêmement tabou dans la société, parce que, bien sûr, comme il est très douloureux, il fait peur, on va pas beaucoup se questionner sur ce qui touche à la mort d'un enfant, à la mort d'un bébé. Et donc ce tabou, il se déplie à plein d'endroits, il peut se déplier dans la famille, il peut se déplier dans le cercle des proches, amicaux, et puis il se déplie aussi au niveau de la société. Et donc c'est vrai que dans l'histoire des idées, la parole des femmes qui ont vécu cette expérience a toujours été extrêmement importante. Il y a des choses qui ont bougé dans la manière d'accompagner ces femmes grâce à leur parole. Et puis, je pense aussi que quand on vit un événement aussi difficile, ben, chacune cherche des soutiens, des manières de faire pour avancer avec cette idée-là. Et il y a beaucoup de familles pour lesquelles, ben, effectivement, le témoignage ou des activités qui permettent d'avoir une créativité autour de cet événement, écrire un livre, faire des dessins, quelque chose qui les aide à avancer avec leurs émotions peut être aussi extrêmement important.
Oui, là, ce que vous dites, ça m'évoque ce que vient de nous dire Marion, mais aussi d'autres femmes que j'ai pu accompagner, de l'importance aussi de laisser une trace, finalement, de ce bébé perdu qui a si peu laissé de traces physiques, tangibles.
Alors, il a laissé peu de traces partageables, en fait. Oui. Bien sûr que pour les mères, il y a des traces, pour les pères, il y a des traces, pour les proches qui arrivent à partager ça avec eux. Il y a une histoire, mais il y a peu de traces concrètes partageables, et donc... pour des personnes qui n'auraient pas envie ou pas le courage d'aller affronter cette question-là, ben, dans l'entourage hein, ou dans la société, effectivement, ça ouvre la possibilité de dénier un petit peu ce qui a pu se passer. Et donc, c'est très douloureux, en général, pour les mères qui se sentent seules dépositaires de l'existence de ce bébé. Et donc, c'est pas toujours quelque chose qui est aidant dans leur deuil d'avoir aussi cette mission-là, de devoir témoigner de son existence.
Pour vous, Bérangère, quel est l'enjeu ? Alors, s'il n'y en a qu'un, il y en a peut-être plusieurs, on en parlera dans le deuxième épisode, mais justement de la grossesse qui suit une perte périnatale.
Oui, alors effectivement, il y en a quand même sûrement plusieurs, mais je pense qu'il y a à la fois l'idée que cette grossesse, il faut faire de la place dans la tête pour pouvoir l'investir, et en même temps faire cohabiter l'histoire précédente, et souvent c'est une grossesse dans laquelle il y a d'autres pensées qui font encore partie du deuil, qui vont arriver, et c'est ça qui est complexe. Ça peut être douloureux, ça peut être complexe à penser en fait, et donc c'est vrai que tout ce qui va pouvoir soutenir, accompagner les parents dans leur chemin, avec les outils qu'ils vont trouver, avec les points d'appui qu'ils vont trouver, est extrêmement important pour trouver ce bon équilibre finalement.
Oui, Marion nous parlait de la juste place, voilà, trouver et construire une juste place pour chacun des bébés. Marion, est-ce que vous avez des questions pour Bérangère ?
Moi, la question que je me posais, c'est en fait, on aura envie aussi, hormis le carnet ou le podcast, je pense, de parler à notre bébé, de son grand frère. Comment on fait ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut pas dire pour expliquer en fait ce qui s'est passé ?
Alors effectivement, le choix des mots, c'est une préoccupation que les parents ont parce qu'ils veulent être le plus précautionneux pour leur enfant. Et en même temps, le choix des mots, il dépend aussi de ce que chaque famille est. Chaque parent trouve ses mots parce que c'est ceux qu'il utilise pour lui-même, c'est ceux qu'il utilise pour se raconter cette histoire. Les choses qu'il faut avoir en tête quand on parle à un enfant de quelque chose qui touche à la mort, c'est qu'il n'a pas forcément la même conception que les adultes. Mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter ce mot-là. Et que ce mot va quand même permettre d'inscrire quelque chose, justement, qu'il ne connaît pas, qui n'est pas dans son quotidien, qui va le questionner, il ne va pas comprendre tout de suite, mais il va pouvoir y revenir. Et il y a un mot qui symbolise ce qui s'est passé. Et puis après, quand on parle à un enfant, sa capacité à réfléchir, à comprendre, évolue avec l'âge. Donc, on peut l'évoquer une première fois, et puis il faudra y revenir. Et le plus important, c'est finalement qu'ils sentent que c'est un sujet qui est suffisamment ouvert et sur lequel il peut revenir à différents moments de sa vie, parce qu'il comprendra mieux, parce qu'il aura d'autres questions, même s'il sent bien sûr que c'est un sujet qui crée des émotions et qui en créera toujours, c'est pas des émotions qui sont pas partageables. Je crois que c'est ça qui est important.
Vous diriez à partir de quand il faut en parler ? Ça, c'est une question aussi que j'entends beaucoup de la part des parents. À quel moment je dois lui dire ? Est-ce que j'attends qu'il ait 15 ans ? Mais c'est un peu ce que vous faites finalement, Marion, à travers votre journal. Voilà, vous lui parlez déjà aujourd'hui, vous lui racontez cette histoire. Parce que, voilà, au moment de la naissance, voilà, de prendre un temps pour raconter cette histoire.
Alors, le mot qui est important, c'est raconter cette histoire. Il ne s'agit pas de dire les choses parce qu'il faudrait les dire, si elles sont encore trop douloureuses, si les parents n'ont pas encore trouvé les bons mots, même pour eux-mêmes, en fait. Mais à partir du moment où ils ont quelques mots aient une possibilité de raconter cette histoire, bah, c'est eux qui vont sentir quand c'est opportun. Il y a vraiment des familles qui ont besoin d'en parler tout de suite, qui ont trouvé voilà, les quelques mots pour démarrer. Et puis après, c'est aussi en parlant justement que les choses se déroulent et qui peuvent le faire très tôt, dès la grossesse parfois, et puis dès la naissance. Et je pense que c'est aussi une manière de chercher ces mots, de s'adresser à cet enfant directement, et donc de se formuler les choses un peu autrement, et pour lui, et pour soi-même. Et puis, de se dire qu'il en garde peut-être une trace, peut-être qu'il sent qu'à ce moment-là, les parents ont une intonation un peu particulière, qu'il se dit qu'il y a quelque chose d'un peu sérieux qui est arrivé dans la famille. Et puis, on en reparle plus tard, et on développe les choses plus tard. Et je pense que ça peut permettre surtout aux parents de ne pas avoir le sentiment qu'il y a un secret sur cette question-là. En en parlant très tôt, ça ne veut pas dire que l'enfant aura tout compris. Mais en tout cas, eux, ils n'ont pas le sentiment que c'est un secret. Ils n'ont pas le sentiment qu'il faut trouver justement le bon moment pour raconter cette histoire. Comme si tout d'un coup, elle allait venir faire effraction dans le quotidien. En fait, pour lui, c'est un événement de l'histoire de sa famille, de l'histoire de ses parents. Quelque chose qui a été là avant lui, donc quelque chose qui a toujours été là, finalement, à partir du moment de sa naissance. Ça n'a pas la même connotation de violence et d'effraction que ce que les parents eux-mêmes ont vécu quand ils ont eu toutes ces mauvaises annonces.
Cette temporalité, finalement, elle est très flexible, mais de pouvoir aussi se donner du temps, comme vous dites, de trouver les mots, de construire finalement aussi l'histoire, mm-hmm. et une histoire avec laquelle on est confortable.
Que les parents puissent le construire pour eux, à l'intérieur d'eux, en tout cas dans leur histoire intime. Et c'est ces mots-là qu'ils vont pouvoir transmettre.
Quand vous dites, Bérangère, on en reparlera, ils en reparleront. Là aussi, j'entends les parents dire, mais quand? Alors, à quel âge on doit en reparler? Alors, évidemment, il y a souvent, pour se rassurer, envie un peu d'une feuille de route et d'un protocole. Est-ce qu'on attend que c'est l'enfant qui pose des questions? Est-ce qu'il peut y avoir des moments peut-être un peu propices pour reparler de cette histoire?
Bien évidemment, aucune prescription possible. Hein. Mais je pense qu'il y a des moments dans la vie où, de toute façon, les parents vont y repenser. Il va y avoir des dates particulières, il va y avoir des moments où quelque chose peut leur rappeler ça. Tous ces moments où ils peuvent être happés dans leurs pensées et qui peuvent être perceptibles pour l'enfant, bah, c'est peut-être ces moments-là qu'il faudra nommer. S'il y a un moment de tristesse, c'est légitime, mais il faut que l'enfant puisse le comprendre et comprendre d'où vient cette tristesse pour pas s'imaginer que c'est parce qu'il a fait une bêtise ou voilà. Donc à partir du moment où ça illustre ce que l'enfant peut percevoir d'une attitude du parent, bah c'est utile parce que ça met du sens sur ses perceptions. Et puis à d'autres moments, ça va être vraiment dans l'idée d'un partage de l'histoire familiale, comme on peut parler de ses ancêtres, des grands-parents. Il y a des moments où on a envie de partager des choses de son histoire et ça vient spontanément.
Oui, c'est ce que j'allais dire finalement, que ces moments, ils viennent assez spontanément. Merci beaucoup, Marion, d'être venue partager avec nous votre histoire. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de votre grossesse et pour accueillir ce nouveau bébé.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés dans la deuxième partie de cet épisode qui sort la semaine prochaine avec le docteur Bérangère Bocquier-Makota. On reviendra sur tous les enjeux qu'il y a autour de la grossesse suivant un deuil périnatal. Merci Bérangère, à la semaine prochaine.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.